Bonjour Frédéric Siriez. Nous parlons de Mélo, ton dernier livre qui est paru en janvier aux éditions Verticales. Est-ce que par Mélo, tu voulais écrire une ode à Paris par trois de ses habitants? Le sujet principal, il m'apparaît être Paris, c'est-à-dire le lieu, le décor, qui est plus que le lieu, plus que le décor, qui est presque le personnage principal de ce livre, de ce triptyque. Est-ce que tu voulais écrire une ode à Paris à travers trois de ses habitants?
Là, cette question me fait très très plaisir parce qu'en fait, je dirais absolument pas. Et la réception de ce livre par un certain nombre de lecteurs, par la presse, me dit que j'ai écrit effectivement un livre sur Paris. Mais dans ma logique, c'était pas du tout ça. Je voulais écrire un mélodrame. Donc j'ai sobrement intitulé le livre Mélo. Il s'avère que comme les protagonistes hein, de ces histoires prennent corps, se déplacent dans Paris, Paris est de fait extrêmement présent. Je n'ai absolument pas eu l'ambition d'écrire un livre sur Paris et c'est très très intéressant de pointer ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, vouloir explicitement écrire sur Paris m'aurait infiniment complexé. Moi, je viens du fin fond de la Bretagne, et il y a eu une littérature magnifique que je ne vais pas commenter, détailler sur Paris, mais jamais j'aurais eu l'ombre de l'idée, de l'envie, de la prétention, d'une certaine manière, d'écrire sur Paris. Par contre, pour être un peu précis, alors, la première histoire se passe plutôt dans ce qu'on appelle la proche banlieue. Voilà. Après, si on prend l'ensemble du livre, effectivement, on se déplace beaucoup dans Paris. La troisième histoire se situe sur ce qu'on appelle les boulevards, principalement, les grands boulevards. Par contre, autant je n'ai pas voulu écrire quelque chose de spécifique à Paris, j'ai voulu écrire sur les boulevards, voilà, qui est un lieu que j'aime beaucoup, évidemment lié à la littérature, Breton, Nadia, les surréalistes aujourd'hui, des gens que j'aime bien, voilà, qui habitent par là-bas. Mais c'est surtout, si tu veux, que dans un cadre baroque, et c'est un livre baroque, avec première partie, je thématise la mort, deuxième partie, je thématise la fête, et troisième partie, je thématise l'illusion, je voulais essayer de me rapprocher au maximum des boulevards qui sont le lieu de diffusion historique du mélodrame, voilà, boulevard du Temple, etc. Voilà. Donc, la dernière partie de ce livre rejoint les boulevards et le mélodrame a lieu sur le lieu même historique du mélo.
Mais il y a cette présence forte de Paris et
Involontaire, absolument, mais je ne peux pas la nier. Après, simplement pour dire que ce n'était pas un projet. Je suis extrêmement content si j'ai réussi à comment on va dire ça, à réussir ma chose, à décrire assez précisément Paris, à essayer de saisir des choses sur cette ville étrange dont on dit qu'elle est une ville musée, ce qui est vrai, mais ce qui n'est vrai qu'en partie, puisque des minables y travaillent au quotidien, et que moi j'habite le 10e arrondissement, je suis désolé, mais il y a des gens qui sont des gens de pas grand-chose, qui suent. Hein, qui transpirent, qui sont vraiment dans le labeur. Donc une ville musée, oui, mais à quel prix et comment? Voilà. Dire aujourd'hui de Paris que c'est une ville musée, à mon avis, ne suffit pas pour en saisir l'étrangeté.
parce que le choix aussi de départ, le parti pris de ce livre dans Mélo, c'est le populaire aussi. On est dans un Paris populaire, on est avec trois personnages populaires.
C'est vrai, alors le mélodrame, souvent quand même, hein, le programme narratif du mélodrame fait que on conçoit le mélodrame comme un drame populaire. Alors là, il s'avère que mes personnages, je les ai choisis, mais encore une fois, très franchement, pas du tout pour être au populo. Le premier personnage se suicide, c'est un hommage à un ami. Hein, voilà, je ne le cite pas explicitement, il reste anonyme, mais j'ai essayé de recréer les conditions de son désespoir final, je dirais. Il s'avère il est populaire, oui et non, il appartient à ce qu'aujourd'hui on appellerait les classes moyennes, qui ont quand même de quoi se loger, qui ont une voiture, qui ont une vie active, c'est pas quelqu'un de au chômage. Mon deuxième personnage, effectivement, est un éboueur. Lui, il serait un peu plus effectivement dans la frange, on va dire, laborieuse de la société, mais il a quand même été à l'école. C'est pas non plus la Lie de l'humanité, c'est pas du tout un livre du ruisseau. Et mon troisième personnage, dont on parlera peut-être tout à l'heure, elle est une jeune femme, au contraire, extrêmement éduquée, qui fait de brillantes études. Donc, il faut être très très prudent en fait hein, avec cette idée de populaire. Comment on va dire ça? Que je ne dénie pas. qui me fait très très plaisir, mais avec laquelle je pense qu'il faut prendre certaines précautions. Après, si j'ai réussi à décrire un Paris populaire versus un Paris petit bourgeois, dans lequel, à mon sens, se confinent bien trop souvent le roman et le cinéma français contemporain, je suis très très content. Ce qui m'intéressait beaucoup ici, c'était aussi de travailler la rue, à savoir l'espace public. Qu'est-ce qui se passe quand on sillonne les rues, etc. Donc populaire en ce sens, oui. Au sens où, à un moment, nous sommes tous embarqués à bord du même bateau. Hein, on est tous... voilà. C'est aussi pour ça que j'aime beaucoup les grands boulevards. Parce que l'humanité se rejoint là. Hein, qu'on soit pauvre ou très très riche, bon, les gens vont au spectacle, se promènent. Et mine de rien, il y a un côté jugement dernier. On est tous de passage là-bas.
Alors, dans ton livre, Mélo, il y a des partis pris, des choix qui ont été effectués, qui marchent beaucoup par trio, peut-être par triade même. Il y a déjà... trois personnages, trois professions, trois manières de raconter la vie d'une personne. Ça fonctionne beaucoup par trois. Et donc, il y a quand même un grand nombre de choix qui ont été effectués, que tu as dû décider, déjà, ne serait-ce que le choix des professions des trois protagonistes. Alors, tu disais que voilà, la première partie, donc, c'est un syndicaliste qui va... bon, il n'y a pas de... pas de suspense, il se suicide, on le sait tout de suite. Donc là, tu disais plutôt que c'était un hommage, sans doute écrit dans la forme de l'hommage. Mais ensuite, par exemple, cet éboueur qui s'appelle Parfait Paris, qui est sapeur, on va apprendre aussi ce que c'est que la sape, l'art de la sape, par exemple. Voilà, c'est un choix fort. Tiens, je prends une profession, un protagoniste qui réussit dans cette profession de sapeur, parce que Parfait Paris, on va l'apprendre que c'est une grosse pointure, c'est pas n'importe qui, quand même, dans l'art de la sape. Tu en fais voilà, un personnage qui a un grand, grand talent et qui réussit en plus et qui rayonne, enfin, illumine presque. Et puis, une jeune femme chinoise, tu l'as dit, étudiante, qui fait des études, qui a envie de créer quelque chose autour de la vente, qui est en fait aussi vente ambulante en roller à Paris, donc qui fait ce petit boulot, mais qui a une grande ambition. Voilà, donc il y a déjà le choix de trois professions.
C'est-à-dire qu'en fait, bon, effectivement, je ne sais pas si j'aurais écrit sur un syndicaliste premièrement, et de la même manière sur un syndicaliste deuxièmement, si je n'avais pas rendu hommage à mon ami. Voilà. Il s'avère que finalement, si tu files un peu les, enfin, si tu creuses, si tu cherches les thèmes développés de manière un peu massive hein, dans ces trois parties, on a quoi ? On a la mort volontaire, on a la fringue avec les enjeux esthétiques contemporains, et troisièmement, on a le fric. Voilà. Donc, une sorte de nihilisme quand même ambiant qui me permettait, je trouve, d'essayer d'appréhender l'époque. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais la SAP, c'est vrai que c'est une, bon, peut-être moins qu'une profession, c'est une activité extrêmement soutenue. Voilà. Alors, mon sapeur, la SAP, c'est quoi ? C'est un acronyme qui veut dire SAP. Société, des ambianceurs et des personnes élégantes. Voilà, historiquement, ce sont les Congolais, hein, issus de Brazzaville et de Kinshasa aussi, qui s'habillent extrêmement élégamment. Ce sont des dandys et qui viennent bien souvent en France pour triompher vestimentairement. Voilà. Leur fief, c'est le 18e arrondissement de Paris. C'est le quartier de Château Rouge, où l'on trouve une boutique éminente spéciale sapeur qui s'appelle Connivence, qui est le grand lieu de ralliement des sapeurs. Voilà. Les sapeurs sont des gens assez merveilleux, parce que ce sont des dandys prolétariens. Et donc ça rejoint les préoccupations aussi qui sont les miennes, au sens où l'art, à un moment, fonctionne comme une illusion, comme un placebo, certes comme un placebo dérisoire, mais quand même comme une très très belle affirmation de la vitalité et de l'envie de vivre, hein, tout simplement, et de faire signe à la fois à soi-même et à autrui. Voilà. Alors, la personne qui tient connivence est philosophe à sa manière, il s'appelle le bachelor, et il a une très jolie formule pour résumer la sape, c'est une formule très très narcissique, qui dit « la sape, c'est l'art de s'aimer ». Voilà. Il y a quelque chose comme ça chez les sapeurs.
Et alors, quel étrange choix de choisir ce personnage, Parfait Paris, donc qui conduit des camions poubelles à Paris. Et donc on est dans la deuxième partie de Mélo. On a Parfait Paris qui est au volant de son camion poubelle, qui prépare sa grande soirée où il cherche quand même vraiment à rayonner, à faire un grand coup dans l'art des sapeurs, en disant attention.
Il va être le plus beau.
Voilà, et puis gagner, et vaincre. Enfin, absolument. Vraiment, il a une grande ambition aussi dans la sape. Et pendant la moitié du texte, il conduit son camion poubelle dans Paris, avec en arrière-fond sa pensée pour préparer sa soirée. Enfin voilà, comment ça s'est fait d'avoir cette idée de choisir un personnage comme ça et de l'inclure dans la fiction?
Alors tout d'abord, sociologiquement, c'est tout à fait probable, et souvent les sapeurs hein, sont des ouvriers, des gens qui sont dans une position sociale pas très élevée. Donc un éboueur qui se sape, c'est tout à fait possible. Après, le livre, quand on le regarde un petit peu attentivement, c'est aussi une approche des figures du déchet contemporain. Voilà. La première partie, finalement, c'est le déchet de soi-même, puisque mon syndicaliste va se suicider près d'une fourrière. Là, on va le dégager. Les faits sont réels, ça a eu lieu. Ces lieux, je les connais extrêmement bien. À 100 mètres de la fourrière, il y a la déchetterie. Voilà, les choses partent en fumée. Voilà, ça c'est un premier élément. Deuxième élément, il est éboueur. Alors un peu à la mode baudelairienne, tu m'as donné ta boue et j'en ai fait de l'or. Eh ben lui va, comment dire ça, se survaloriser esthétiquement en se transformant en dandy. À ceci près, et là je suis très très clair, que ce avec quoi il joue, à savoir la manipulation des grandes marques, c'est une autre manière que de manipuler les déchets du capitalisme. Voilà. Il y a des sapeurs qui vont très très loin dans la logique exhibitionniste, hein, qui est la leur. Ils le disent de toute façon très très clairement, nous sommes des exhibitionnistes, qui exhibent par exemple la marque de leurs vêtements. Ça va très très loin dans l'exhibition de ce que nous sommes nous, de ce que eux ont envie d'être et sont le temps d'un soir, mais de ce que nous sommes nous de manière plus générale. Je considère donc que l'enjeu esthétique de la sape, lorsqu'on l'approche politiquement, est très profond et très puissant, et que les sapeurs nous disent énormément de choses sur l'état de notre société. Voilà. Donc première partie, le déchet de soi, deuxième partie, le déchet esthétique, troisième partie avec ma chinoise qui vend des babioles sur les boulevards, le déchet manufacturé, made in China, à savoir pas grand-chose. Donc les trois parties du livre sont trois figures d'une certaine manière, hein, trois approches et trois figures du déchet. Donc voilà pour revenir à ta question précisément, effectivement, pourquoi mon deuxième personnage est éboueur. Après une petite confidence autobiographique, c'est que quand j'étais étudiant, j'ai été éboueur moi-même. Donc le job, je le connais dans sa dimension physique. Moi j'étais à l'arrière d'un camion, je ne me fais absolument pas une gloire. C'est juste dire que c'est quelque chose que je connais et c'est très impressionnant. Moi j'étais jeune homme, hein, je l'ai fait deux fois, j'avais 18 et 20 ans. Et comment dire ça, on se levait à 5 h du matin, même avant, comment dire, on commençait à 5 h du matin, on sillonnait, bon, bah, c'est un petit bled en Bretagne, on sillonnait ma petite ville et puis les campings. C'est des choses quand même qui marquent beaucoup, que de mettre un conteneur dans la benne à ordures, que de vider une boucherie, que de vider une poissonnerie en plein soleil. Voilà, et c'est la vie la plus ordinaire qui soit. Simplement, tout le monde n'est pas éboueur et on ne le sait pas. Voilà, mais j'ai essayé finalement de saisir Paris, non pas sous l'angle des bobos, mais sous l'angle de ses poubelles. Voilà. Alors, parfait de Paris, pourquoi ce nom? Déjà, il faut savoir que les sapeurs sont des artistes, et se considèrent tels et se donnent des pseudonymes, des noms de scène. Hein, donc, ils s'appellent Parfait. Donc, j'ironisais un petit peu, Parfait, qui est un joli prénom, c'est Parfait de Paris. C'était créer une petite mythologie. Une mythologie contemporaine. Alors, ce que je dis dans la deuxième partie, c'est très très, comment dire ça, je raconte pas de bobards. Ce que je dis à la fois sur la poubelle parisienne, moi, je suis allé vider avec un Zaïrois en bas de chez moi, mon éboueur et ami. Et je lui dis, je peux venir dans ton beau camion faire un petit tour à Ivry vider. Il m'a dit, mais viens. Donc, on a été vider, j'ai vu ce que c'était. J'imagine. Moi, je suis pour l'imagination, etc. Après, j'aime imaginer quand je maîtrise un peu les choses. Donc, cette deuxième partie, je l'ai quand même bien méditée sous l'angle de ce qu'étaient aujourd'hui les poubelles à Paris, de ce qu'est la sape, de ce que c'est que de ce que sont les sapeurs, etc., avant de me permettre d'imaginer des choses. D'autant plus que je dis je, à la place
Voilà,
d'un sapeur.
c'est écrit à la première personne. Quel est le seul
Absolument.
texte qui est écrit à la première personne
Alors,
aussi?
je vais te
Ça
dire.
fait de l'effet. Il y a un effet de, enfin, ce choix aussi, parce que ils sont écrits tous les trois. Il y a une manière de raconter la vie d'une personne différemment, différente à chaque fois. Et dans cette partie sur Parfait de Paris, l'éboueur sapeur, donc, c'est écrit à la première personne. Là, ça provoque quelque chose chez le lecteur.
Alors, l'idée était la suivante, c'est comme il y a trois parties en fait dans mon désir d'écrire un livre, la structure était la suivante, c'était un retable, hein, un tableau classique en trois panneaux. Et le panneau central, finalement, c'était un autoportrait de l'artiste. C'est pour ça que je dis je. Et à titre personnel, je me sens beaucoup d'affinité avec les sapeurs, avec les éboueurs-sapeurs, avec les sapeurs tout court. Voilà, donc il y a un grand geste aussi d'amitié. Et je trouvais que c'était aussi un véritable enjeu que d'essayer de se mettre à la place de l'autre pour parler sa langue. Une langue qui n'est pas nécessairement parfaite au sens des canons esthétiques, du bon français, etc. Mais qui est une langue magnifique et extrêmement créative. Voilà. Alors on parlera peut-être tout à l'heure des joutes, hein, oratoires qui ont lieu entre sapeurs. Les sapeurs se défient, en gros, pour essayer de démontrer que eux sont plus beaux que la personne qu'ils affrontent. Et ça donne lieu à de véritables joutes où les sapeurs se révèlent être de véritables performeurs du verbe. Voilà. Ce sont des artistes non seulement du point de vue de leur accoutrement, du vêtement, ce sont des artistes de la voix et du verbe.
Et
Voilà.
c'est là où cette partie. On va continuer du coup sur Parfait de Paris.
Continuons.
On est bien sur
Voilà.
Parfait de Paris. Alors on continue sur Parfait de Paris. Et effectivement, on le voit d'abord en train de conduire son camion poubelle dans Paris. On le voit chez lui où il y a une force domotique s'habiller, se préparer. On voit son ami qui va le conduire jusqu'au lieu de la soirée dans une grande Rolls-Royce décapotable, magnifique, accompagné en plus de troisième personnage, on y viendra également. Et on apprend que le sapeur n'est pas seulement celui qui est bien habillé, qui est élégant, qui manie les couleurs et les tissus, c'est aussi quand même quelqu'un qui pratique la joute oratoire, qui sait extrêmement bien, on va dire, provoquer son adversaire pour le faire chuter, non pas physiquement, mais verbalement, que l'adversaire finalement trébuche dans ses mots, trébuche dans son phrasé, trébuche dans son lexique et ne sache plus quoi dire à la provocation Parfait de Paris, parce Parfait de Paris, il excelle justement dans cet art. Et ça provoque une grande jouissance. Moi, je t'ai imaginé, Frédéric, vraiment en train d'écrire ça, en disant, ah tiens, prends ça, enfin. Et le lecteur, waouh, ça provoque beaucoup, pas seulement des émotions, enfin, il y a une jouissance de la langue qui est là. Et c'est surprenant de le trouver donc chez un éboueur et de le trouver chez un sapeur, quelqu'un qui met en avant tout son paraître, avant son art du langage.
Eh ben, c'est pourtant une réalité, et c'est aussi une raison supplémentaire que pour accorder de l'importance aux sapeurs. Alors, ils sont tous, hein, quand même relativement habiles à divers niveaux, mais ils sont tous quand même relativement habiles avec la parole, hein. Donc ça, faut le savoir. Et c'est l'une des dimensions effectivement de leur art, et c'est l'une de leurs armes. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a énormément de métaphores guerrières qui sont utilisées dans leur langage. Métaphores guerrières et de métaphores animalières. Par exemple, ils vont dire je vais mordre, ce soir je vais mordre, je vais te croquer, moi je suis le crocodile et je vais vaincre. Voilà, ils parlent comme ça. C'est-à-dire que le vêtement, finalement, et leur peau a aussi une voix. Voilà, ils sont à leur manière, ils sont reptiliens. Voilà, ce sont des crocodiles de sortie dans la ville et dans la jungle de la ville. Alors, il faut savoir quand même, hein, que ces joutes ont lieu non pas en boîte de nuit, non pas dans des concerts-exhibitions au Grand Rex, mais tout simplement dans des occasions extrêmement banales de la vie, des baptêmes, des mariages, des choses comme ça. C'est leur grand plaisir.
J'aimerais qu'on revienne sur la jouissance de la langue, parce que c'était peut-être l'endroit paroxysme, enfin le moment paroxysme du livre, parce qu'on n'a pas parlé de la langue de Mello, mais la langue de Mello est très travaillée, très. Alors bien entendu, la première partie est âpre, c'est le suicide de quelqu'un, donc on est dans une grande tristesse, mais la langue qui est utilisée est. Provoque cette tristesse, alors que dans la deuxième partie, elle provoque au contraire peut-être du rire ou de l'excitation. Donc, dans ton art de manier le lexique, là on arrive à un moment paroxystique. Vraiment, on se dit, tiens, ça y est, il y a la lutte des mots qui est là et qui est presque. Voilà, on a dépassé la moitié du livre et on est dans cette joute oratoire. C'est un peu le branle-bas de combat lexical.
Eh ben, ça me fait très très plaisir. Alors, Parfait de Paris dit, je suis le sexe de la fringue. Il l'est objectivement et il pourrait ne pas le dire tout en l'étant, simplement se regardant dans le miroir ou en montrant sa beauté aux gens. Or, il le dit. Il le dit parce qu'effectivement, ça jouit dans la langue. Alors, tout à l'heure, avant d'entamer l'entretien, tu me parlais de la dépense au sens de Georges Bataille. Effectivement, on est vraiment là-dedans. Alors, bon, j'ai fait un livre en 2008 qui s'appelait Des néons sous la mer, où je mettais en scène un bordel imaginaire, mais le bordel, mon bordel aussi textuel, était un bordel formel et un bordel de langage. C'est aussi ma conception de la langue. Voilà, à savoir que la langue, c'est un grand bordel. Hein, tout le monde vient, tout le monde y dépose ce qu'il veut y déposer, tout le monde peut y prendre ce qu'il peut y prendre, et à sa manière, tout le monde y jouit. Voilà. Donc, je ne sais pas si en disant cela, je réponds à ta question, c'est une autre manière de l'envisager, et cette jouissance profonde du langage chez Parfait de Paris est liée à ma conception et à mon plaisir aussi d'auteur et de lecteur. J'aime beaucoup, si tu veux, les écrivains qui sont des écrivains de l'hyperprésence, je dirais. J'aime beaucoup des écrivains hystériques, par exemple, comme Pierre Louis, qui sont des écrivains de l'excès, mais au moment même où l'excès s'énonce. Voilà. Par exemple, dans un roman comme La femme et le pantin, le rire est à la limite parfois du supportable. Voilà. C'est des choses comme ça que j'aime bien. Donc avec la langue de Parfait de Paris, pas question de faire la même chose que des gens que j'admire, mais je crois que ce qu'il a travaillé lui, ce qu'il m'a travaillé moi, puisque je parle à sa place, ou du moins je le fais parler, c'est ça, c'est un profond plaisir d'être avec les mots, d'être dans un univers de mots, et d'être dans un sexe de la langue. Voilà. Moi, je lis beaucoup d'écrivains aujourd'hui, et il y a un problème de fond, indépendamment de ce qu'ils peuvent raconter, etc., c'est qu'ils sont asexués. Voilà. Et moi, ça m'embête. C'est pas incarné, il n'y a pas de sexe, etc. Ça me fait de la peine. Voilà. Et je trouve qu'il leur manque quelque chose. Voilà. Ça n'a rien à voir avec leur éventuelle habileté, avec leur place dans la réputation, dans la réputation, sur la petite scène littéraire française. Mais pour moi, ils sont amputés de quelque chose. Voilà. Pour moi, il n'y a pas de littérature avec volontairement ou involontairement une enveloppe érotique, une sensualité. Voilà. Alors, la première partie est glacée, effectivement, c'est un mec qui va se buter, ça paraît pas. Mais ça me fait extrêmement plaisir si tu as pu être sensible à cette, encore une fois, à cette enveloppe charnelle autour des mots à travers le langage de Parfait de Paris. Voilà. Je sais pas du tout, Dominique, si j'ai répondu à ta question, hein, mais c'est ce qui, moi, m'intéresse.
Et cette troisième partie de cette petite chinoise, tu parlais d'érotisme un peu dans la langue, de langue incarnée. Donc là, on est à la troisième personne pour cette petite chinoise. Petite, mais à la grande ambition. Elle dégage une force, cette personnage. Et là, oui, l'érotisme, tu le fais peut-être passer par ses règles. C'est le moment, cette journée-là. On y reviendra sur le moment, du coup, sur la compression du temps. Elle a ses règles, c'est le mot, et tu en fais tout un élément répétitif assez puissant, quoi.
Les règles, c'est une manière, comment on va dire ça, de mettre en écho mon premier personnage se suicide au couteau dans sa voiture, donc ça saigne. Les règles, c'est un écho thématique finalement au sang de la première partie. Voilà. Après, la question érotique est effectivement extrêmement présente. Elle est présente sur le mode de l'image et singulièrement de l'illusion. À savoir, sur la couverture du livre, on voit un briquet. Ce briquet, on le retrouve dans le livre, thématisé sous la forme d'un briquet à projection érotique. Il y a ces petits briquets qui, quand on actionne un petit bouton, nous envoient une image, une jeune fille, souvent nue. Voilà. Alors, mon Congolais, dans la deuxième partie, en trouve un, et finalement, a pour grand ami... IE au féminin pour grande amie, cette jeune fille nue. Hein. Et voilà.
Russe,
voilà. Ça te fait rire, ça. Hein. Et on la retrouve dans la troisième partie, à savoir, à un moment, autrui et le sexe d'autrui devient une illusion, ce qui est aussi notre condition d'homme mélo, d'homme de pas grand-chose, contemporain. Donc effectivement, l'érotisme est latent, mais il est latent comme déception, il est latent comme illusion. C'est-à-dire que finalement, on est dans une sorte d'univers hypersexué, mais on ne consomme pas. Voilà. On peut aussi, finalement, envisager le livre comme une vanité. Voilà. Avec le briquet qui se substitue avec l'image classique, dans le monde de la peinture, tout simplement, de la bougie.
Et alors, cette histoire de condensation du temps et de choix de date, parce qu'on voit bien quand même que ton livre est très théorisé, Frédéric. Hein. Mello, c'est très très pensé, ce n'est pas juste trois histoires, tu en parles très bien, il y a un triptyque, il y a des avancées théoriques, c'est très pensé, il y a trois thèmes qui se mélangent. Tout cela est très très pensé. Mais tout ça est à une même date, se produit la veille du 1er mai. Mais pas n'importe quel 1er mai, puisque c'est un 1er mai qui n'a pas encore eu lieu, puisque c'est le 1er mai 2013.
Mais qu'est-ce qu'il est fort, ce Dominique Jeanvray. Hein.
Alors, comment c'est possible, bien, ça, le 1er mai 2013 parce que ça, j'ai trouvé ça étonnant, la veille du 1er mai 2013, c'est-à-dire une date pas encore advenue. C'est un léger décalage où je me dis, là, il y a quelque chose encore derrière. Forcément, il y a quelque chose.
Alors, c'est vrai que c'est aussi écrire un roman qui, quelque part... va avoir lieu, alors très prochainement, dans un mois et demi. Et c'est aussi, je pense, plus affectivement une manière de me protéger et d'avoir mis à distance, très légèrement, comment dire ça, cette date qui est la date réelle du suicide de mon ami, qui est un grand syndicaliste, hein, et qui s'est suicidé une veille de 1er mai, dont j'ai appris, donc la veille du 1er mai, le 30 avril, qu'il était le moment de la nuit de Valpurgis, qui est le grand, dans les mythologies scandinaves, le grand passage à la force du printemps et au sang. Finalement, c'est la nuit où on allume des feux, où il y a les sabbats dans les forêts, dans les mondes germaniques. Et donc voilà, donc c'est une nuit sacrificielle. Et ce hasard est pour moi, qui était petit romancier, très étrange, très troublant. Voilà, et j'ai voulu creuser ça. Donc voilà pourquoi j'ai mis ça un petit peu à distance.
Et une veille de 1er mai.
Une veille de 1er mai. C'est-à-dire que j'ai mis un petit peu à la distance de la réalité pour m'en protéger.
Parce que la date a son importance. Il y a
Absolument.
une excitation. Alors, bien entendu, chez le syndicaliste, c'est une date fatidique, mais je sais pas. Enfin, on entend cette Chinoise qui voit un commerçant qui s'en moque, parfait en joue, et il ne peut apparaître à cette fête que parce que, justement, aussi, le lendemain est férié.
C'est le grand commerce des illusions, et dans la troisième partie, c'est l'apothéose libérale. À savoir que pour elle, qui est une Chinoise, mais qui est surtout une Française d'origine chinoise, elle n'est plus dans un rapport à la République. Ce n'est pas une jeune républicaine, c'est une jeune fille mondialisée, dont la seule ambition est de se faire du fric.
Et le 1er mai n'a pas de
Elle
signification
n'en
pour elle.
a juste rien à foutre. Donc le livre, en ce sens, et tu l'as très bien vu, ça me fait très très plaisir, hein, comment dire, est relativement pessimiste, mais je pense que je ne suis pas très très loin de notre présent. Voilà.
Merci beaucoup, Frédéric Sériez, d'avoir parlé de Mélo.